Bonjour à vous, les auditeurs. Je m'appelle Thomas, et aujourd'hui je suis avec Mathilde.
Salut.
Et Lucien.
Yo.
Dans ce podcast, nous allons parler de spiritualité et d'environnement. Notre but aujourd'hui, c'est de vous présenter l'éco-spiritualité qui crée des liens entre écologie et spiritualité afin de répondre à nos besoins liés à l'environnement.
Tout le monde aujourd'hui connaît plus ou moins les enjeux climatiques et environnementaux actuels. C'est un vrai sujet de société et on en parle tout le temps. Il a été difficile d'ignorer l'explosion médiatique des premières manifestations pour le climat. Elles ont permis une réelle considération des problématiques écologiques au sein de toute la société. Par contre, les positions que tenaient les militants en particulier, elles ont été nettement moins médiatisées. Ces discours remettent en question de façon très marquée le système politique et économique actuel. Ils l'accusent d'être à l'origine d'une idéologie qui ne considère pas l'environnement comme quelque chose d'important et qu'il faut préserver.
Mais pourquoi donc ces revendications dérangent-elles tant ? Les entités qui bénéficient du système politique et économique n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on remette en question le fonctionnement du capitalisme. Ces entités, qui sont-elles ? Ce sont les grandes entreprises comme Nestlé, dont le pouvoir est construit grâce à leurs actions destructrices de l'environnement. C'est pourquoi une idéologie très forte soutient le capitalisme. Cette idéologie, elle est marquée notamment par l'idée que la nature est un bien appropriable. Avec la crise climatique actuelle, nos sociétés font aujourd'hui face à leur propre population qui remettent en question les valeurs soutenant leur structure économique. C'est une crise des valeurs sans précédent que nous traversons.
Les questionnements liés à ces valeurs sont au fondement même des mouvements spirituels. Et depuis les années 1980, ces derniers ont formulé un début de réponse sous la forme de l'éco-spiritualité afin de répondre donc aux questionnements environnementaux. L'éco-spiritualité appelle à une resacralisation de nos relations à la nature. Elle vise donc à mettre en avant de nouvelles valeurs qui seraient plus adaptées à la préservation de l'environnement et qui répondraient à l'angoisse de ceux qui craignent pour le futur. L'éco-spiritualité n'est encore pas très connue, son traitement médiatique se faisant surtout grâce à des intervenants chrétiens, et cela même si elle a une visée universelle. Aujourd'hui, nous accueillons autour de notre table ronde plusieurs personnes qui luttent pour repenser la relation à l'environnement à leur manière, toutes et tous liées par la même conviction, il faut faire changer les choses.
Philippe Roch, vous avez dirigé l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage pendant 13 ans. Depuis 2005, comme vous le dites vous-même, vous avez développé une approche plus mystique et l'éco-spiritualité est alors entrée pleinement dans votre vie. Pourriez-vous nous la définir ?
Dès le moment où vous avez conscience d'une réalité spirituelle qui enveloppe toute la réalité, nous faisons partie de la famille du vivant. Mais lorsque vous y ajoutez cette dimension spirituelle, vous vous rendez compte que tous les êtres, que ce soit un caillou, un animal, un être humain, sont reliés et inclus dans cette réalité qui nous dépasse. Mais ce sentiment de tous appartenir à la même réalité fait que je ne peux plus considérer un autre être vivant ou une parcelle de nature comme quelque chose de purement matériel que je peux utiliser. Non, ce sont des membres de ma famille et cette conviction profonde fait que le respect de la nature devient évident. Et voilà ce qu'est pour moi l'éco-spiritualité, cette conscience d'appartenir à cette grande famille universelle.
Michel Maximegger, vous êtes sociologue et éco-théologien de formation et vous êtes responsable du laboratoire de transition intérieure qui vise à contribuer à un changement de cap durable et profond au sujet de la crise écologique et sociale. Partagez-vous la même vision que Philippe Roch ? L'éco-spiritualité est-elle la solution aux enjeux environnementaux ?
Alors moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que quand on parle de solution, il faut toujours être très prudent parce que les défis écologiques, climatiques que nous avons à relever, ils sont complexes, ils sont multidimensionnels et donc ils demandent des réponses complexes et multidimensionnelles. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'écologie intégrale ou de transition intégrale même, c'est-à-dire en fait des approches qui vont articuler les dimensions individuelles et collectives, les dimensions intérieures et extérieures. Et en ce sens, l'éco-spiritualité, elle est essentielle comme contribution à l'écologie ou à la transition intérieure parce qu'en fait, on ne parviendra pas à résoudre les problèmes écologiques uniquement par des mesures extérieures.
Carolina Costa, vous êtes pasteur au sein de l'Église protestante de Genève. Que pensez-vous de l'intervention de Maximegger ? Comment est-ce que cela se manifeste concrètement dans votre paroisse ? Y a-t-il des groupes qui sont plus touchés que d'autres ?
En fait, c'est vraiment entre la trentaine, 30, 35, 60. On a besoin de réparer quelque chose. Et donc, il y a beaucoup de gens Ils ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font. Ils se rendent bien compte qu'il y a un système qui ne correspond plus en fait à l'histoire qu'on se raconte.
Michel Maxime Egger, pourquoi certains individus sont-ils touchés aussi fortement que Carolina Costa le décrit? Comment conceptualisez-vous la crise climatique et quelles sont ses origines à vos yeux?
Pour moi, c'est plus qu'une crise. C'est vraiment les changements climatiques, l'expression ou la manifestation de moi ce que j'aime bien appeler un bouleversement systémique et en fait qui révèle vraiment l'impasse d'un mode de développement, c'est-à-dire un système socio-économique qui est fondé sur l'illusion d'une croissance matérielle illimitée et qui se heurte aujourd'hui aux limites de la biosphère. Et par rapport à cette situation, eh bien, l'éco-spiritualité qui se veut une démarche radicale, c'est-à-dire une démarche qui ne s'arrête pas aux symptômes, mais qui va à la racine des problèmes, eh bien, pour l'éco-spiritualité, ces racines ne sont pas seulement économiques ou politiques, mais elles sont spirituelles, elles sont psychoculturelles, et elles ont à voir avec le paradigme qui s'est cristallisé à la fin du XVe siècle avec la modernité occidentale. Et ce paradigme est ce qui, en fait, sous-tend le système économique dominant, et c'est une conception, une vision du monde dualiste, très anthropocentrique, très matérialiste, qui est hyper masculine, et aussi désacralisée et désacralisante, donc tant du cosmos que de l'être humain.
Vous parlez d'anthropocentrisme, l'idée que l'être humain est au centre de tout, et c'est ce qui légitimise l'appropriation de l'environnement par ce dernier. C'est par ailleurs une grande critique du christianisme qu'on accuse d'avoir diffusé ce mode de pensée. Carolina Costa, vous avez dit lors d'une conférence à l'ONU que les églises devaient s'excuser d'avoir diffusé une idéologie qui légitimait des actions écocides. Cela veut-il dire qu'il faut repenser la manière dont on pratique le christianisme ?
Dans nos récits bibliques, il y a aussi quelque chose à déconstruire parce qu'en fait, on s'est beaucoup servi des textes bibliques pour dire que l'être humain devait dominer la Terre. Et en fait, en relisant les textes bibliques, nous ne sommes pas à dominer la Terre au sens de la soumettre et de la rendre à notre image terrible, mais plutôt l'inverse, d'être des jardiniers du temple. Donc il y a aussi toute une déconstruction religieuse à faire pour retrouver en fait ce que le texte biblique en vérité disait de manière originelle. Et il y a une anecdote très marrante d'ailleurs, c'est que si on faisait une vraie lecture sérieuse de ce texte biblique, on découvrirait que l'être humain est invité à manger des graines et pas de la viande.
Durant nos recherches sur l'éco-spiritualité, nous avons remarqué que les personnes médiatisées étaient bien souvent de confession chrétienne. Michel Maxime Egger, partagez-vous cette observation et quelle médiatisation est faite de l'éco-spiritualité en général ?
L'éco-spiritualité occupe encore une place marginale dans les médias et l'opinion publique, mais on a de plus en plus d'ouvrages, de sites internet qui sont consacrés à l'éco-spiritualité. Alors bon, c'est vrai qu'on est aussi en Occident, il y a plus d'acteurs chrétiens, alors c'est aussi dû au fait qu'on a eu la publication de l'encyclique Laudato Si, donc première encyclique du pape François sur l'écologie, qui a eu quand même un très très grand rayonnement, d'ailleurs bien au-delà des milieux d'église, et ça, c'est vrai que ça a donné une impulsion assez forte à la réflexion éco-théologique et éco-spirituelle dans les milieux chrétiens.
Malgré tout, cela reste une médiatisation dans un cadre chrétien et donc institutionnel. Carolina Costa, comment dépasse-t-on le cadre religieux ?
C'est du spirituel, donc c'est-à-dire ça dépasse le cadre religieux précisément. Il n'y a pas de dogme, ça touche à l'être. Ce qu'on vit en contact avec la Terre, c'est difficile de le transcrire en mots. C'est vraiment des sensations, c'est des sentiments. Et les religions telles qu'elles étaient jusqu'à maintenant sont d'une certaine manière vouées soit à disparaître, soit à se transformer.
Carolina, vous dites ici que cela touche à l'être. Je me tourne alors vers Philippe Rock et je me demande si vous pouvez peut-être nous parler d'une expérience forte que vous avez vécue au travers de l'éco-spiritualité.
J'ai vécu des moments extrêmement tendus. Tout le Parlement qui était contre l'environnement, qui essayait de m'embêter. Et dans ces moments difficiles, j'allais me retirer dans une petite forêt où il y avait d'énormes chênes. Et puis, je restais un long moment à méditer là. Je sentais que j'étais envahi par une énergie extrêmement puissante qui m'a permis de surmonter ces moments très difficiles. Lorsque j'ai dû prendre les premières décisions au sujet de l'utilisation d'OGM en plein champ, et j'étais vraiment sous pression, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Puis après ces réflexions, eh bien, j'ai été médité, puis je suis rentré à la maison. Et quand je me suis réveillé le matin, c'était clair. Je devais dire non. J'ai pris la décision négative. Et je crois qu'à la fin, mes adversaires ont commencé à se dire « Oui, mais il est vraiment solide, comme un roc. »
Merci Philippe Roch pour votre témoignage qui conclura cette table ronde. Ce que nous retiendrons, c'est que l'éco-spiritualité n'est pas une spiritualité aliénante à la réalité du changement climatique, mais bien une spiritualité invitant à l'implication et à l'action dans notre environnement. Nous remercions encore Philippe Roch, Caroline Acosta et Michel Maximeger pour leur participation.
Pour conclure ce podcast, nous allons sur le terrain où nous avons rendez-vous avec un activiste pour le climat. Nous sommes dans une manifestation sur... Oh, mon contact est à travers la foule, je vais le rejoindre. Théo Frey, vous êtes actif au sein de la grève pour le climat et du collectif Break Free. Nous avons une question à vous poser au sujet de la spiritualité. La spiritualité touchant aux valeurs des individus, pensez-vous qu'elle puisse être utilisée dans le cadre de l'activisme climatique ?
Je pense que effectivement les valeurs sont très importantes, comprendre l'engagement des personnes. Donc dans cette optique-là, de donner un sens à ce qu'on fait. Des fois, on a une vision un peu anti-spiritualité, fausse à mon avis, et que justement, par exemple, dans des cas comme l'écoféminisme ou d'autres courants, on peut avoir des visions qui prennent en compte les spiritualités et que ça nous mène à changer le système, à vouloir changer le système.
Mouvement militant ou mouvement spirituel, le constat reste le même. Un changement systémique doit être amorcé. Qui sait ? Peut-être que dans un futur pas si lointain, des actions directes seront menées main dans la main par des croyants et croyantes de différents bords confessionnels devenus activistes et des militants et militantes ayant développé une spiritualité écologique profonde. Dans une crise anémique où les repères s'effondrent et que la classe politique échoue à répondre aux attentes sociétales, c'est en s'unissant que le peuple donnera du sens à ses actions.
Le monde, le monde, répond, résistance.